Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm looking at the significant fall in the cryptocurrency.
Bitcoin is now down 23%.
Elon Musk declared a top. Ether is down 40%. No, it's the Chinese.
Saturday Night Live.
It's the Chinese, Jim.
Musk and China.
Elon Musk ou la Chine, les deux, mon général. C'était le débat mercredi matin sur CNBC. On se serait cru dans l'heure des pros sur CNews. Qui a causé le krach mondial des crypto-monnaies? Bitcoin en tête. Elles ont plongé en journée entre 30 et 50% le 19 mai. Un mercredi noir qui a vu la capitalisation de ces monnaies virtuelles fondre à un instant T de 730 milliards de dollars. C'est ce que raconte Nessie Maïd Kassimi dans Les Échos. Impressionnant.
What does Jay Powell have to do other than sit back and laugh?
Sit back and laugh, attendre et se marrer, le conseil de Jim Cramer, animateur vedette de la chaîne financière, devant la chute. Il y avait eu déjà une première alerte il y a quelques jours, lorsque le Dogecoin avait plongé de 30% après les propos d'Elon Musk, le patron de Tesla, qui en riant parlait d'une arnaque. Sympa le cadeau pour la fête des mères aux États-Unis.
And I'm excited for my Mother's Day gift. I just hope it's not Dogecoin.
It is.
Une farce qui risque de laisser un goût amer à ceux qui avaient cru au mirage du Dogecoin, une cybermonnaie au parcours stratosphérique, une blague de potache qui a mal tourné. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story. Chaque jour de la semaine, la rédaction des Échos se mobilise pour analyser, décrypter et fouiller dans tous les coins un sujet de l'actualité économique, sociale et financière. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'homme qui fait la pluie et le beau temps dans le monde des crypto-monnaies, Elon Musk.
Ladies and gentlemen, Elon Musk.
C'est le patron de Tesla et de SpaceX. Il est fantasque, il est atteint du syndrome d'Asperger et il a plutôt tendance à dire ce qu'il pense sans mettre les formes ni forcément en mesurer les conséquences. En une semaine, Elon Musk a piétiné la fourmilière des crypto-monnaies après avoir participé à son édification.
Thank you very much. It's an honor to be hosting Saturday Night Live. I mean that.
Mercredi, le Bitcoin a perdu plus de 30% de sa valeur en quelques heures. Le Dogecoin a lui chuté de 45%, une correction historique par son ampleur après une année folle pour les crypto-monnaies et notamment pour le Dogecoin. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le Dogecoin ?
Alors, c'est une crypto-monnaie qui a été inventée à l'origine un petit peu comme une blague.
Nessie Maïd Kassimi est journaliste au service marché des Échos, spécialiste notamment du marché d'échange et des crypto-monnaies.
Et qui a connu en fait un succès fulgurant, notamment sur les réseaux sociaux et sur, vous savez, toutes les applications comme TikTok. Elle a pris pour mascotte un chien japonais qui est devenu en quelques années un petit peu la star de ces réseaux sociaux. Alors, elle était à l'origine conçue comme une plaisanterie. Elle n'a pas eu véritablement d'application réelle dans le monde des cryptos. Mais petit à petit, une forme d'engouement spéculatif extrêmement fort s'est créée autour de cette crypto. Et elle a valu à un moment jusqu'à à peu près 60 milliards de dollars.
Oui, ce qui est énorme quand on part de zéro. Hein. Il a été lancé en décembre 2013. Pourquoi est-ce que son initiateur, Billy Marcus, a eu envie de faire ça?
Je pense qu'il voulait sans doute montrer que c'était extrêmement facile de créer des cryptos. Aujourd'hui, il en existe à peu près 10 000. Alors, en fait, il y a assez peu de barrières à l'entrée, on va dire, techniques ou technologiques. Tout le monde peut les créer. Alors après, la question est de savoir si elles rencontrent après un succès. Pour qu'elles aient du succès, il faut qu'elles aient, comment dire, une forme de plus-value et de valeur ajoutée technologique. Il faut aussi qu'elles aient de la visibilité, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, mais surtout sur les bourses. Vous savez qu'il y a beaucoup de bourses comme Coinbase qui cotent des cryptos. Par contre, il y a une très forte demande, évidemment, de ces milliers de cryptos pour être cotés sur ces plateformes, parce que ça leur offre de la visibilité, ça leur offre aussi une forme de crédibilité, et ça, justement, ça accroît leur chance de succès.
Qu'est-ce qui différencie le Dogecoin des autres crypto-monnaies, à part de ne pas se prendre au sérieux?
Alors, en fait, elle n'a pas véritablement de valeur ajoutée par rapport aux autres. Son offre est illimitée, à la différence, par exemple, du Bitcoin, dont l'émission, en fait, est limitée à 21 millions de Bitcoin. À son origine, à peu près 100 milliards de Dogecoin devaient être émis avant que son offre, en fait, soit progressivement changée. Alors, c'est une devise qui se veut aussi un peu une forme de plaisanterie et surtout un petit peu une sorte de monnaie d'échange. Elle est très populaire, notamment pour le financement participatif. Elle est utilisée dans ce cadre-là. Comme sa valeur, pendant très longtemps, a été très faible, c'était à peine quelques microcents, les gens l'utilisaient un petit peu comme une forme de pourboire numérique. Vous rémunérez en fait une forme de service ou même de spectacle, ou de vous trouvez une vidéo par exemple marrante, donc vous reversez à son auteur quelques Dogecoin. Enfin, c'était une utilisation assez limitée. Alors après, là on voit quand même que la spéculation a bien diminué, notamment depuis à peu près 48 heures. Vous savez qu'il y a eu un crack quand même assez important sur tout le marché mondial des cryptos. Et je pense que ça, à mon avis, beaucoup de personnes se sont dit que la plaisanterie, finalement, avait peut-être assez duré. Et là, le Dogecoin continue un petit peu à perdre du terrain. Aujourd'hui, je dirais qu'il est aux alentours de 36 cents. Donc, il ne vaut pas encore un dollar. Il a grimpé, je crois, à son maximum aux alentours de peut-être 70, 75 cents. Donc, il a perdu à peu près la moitié de sa valeur, on va dire, en à peu près une semaine.
On va y revenir, hein, effectivement, sur ce qui s'est passé ce mercredi et puis les jours précédents, parce que c'est important. Mais avant, je voudrais qu'on revienne sur l'énorme succès du Dogecoin depuis quelques mois, après être resté longtemps dans l'ombre des centaines de cryptos qui ont inondé le marché. Le cours s'est envolé cette année. Et c'est vrai que quand je regardais tout à l'heure le graphe du cours, hein, c'est vraiment une ligne droite d'un seul coup, presque du jour en lendemain, c'est monté très haut. Je repensais à l'image d'un chien goguenard, hein. C'est son emblème, ça. Ce chien, ce Shiba Inu, ça a vraiment contribué à sa flambée?
C'est assez curieux. Vous savez, on appelle ça sur Internet des mèmes, c'est-à-dire des images, des courtes vidéos qui sont répercutées à l'infini, en fait, par les internautes pour illustrer, on va dire, leur état d'esprit, leur préoccupation du moment. Et ce chien est curieusement devenu une sorte de mascotte. Alors, j'ignore si c'est aussi lié à la popularité, vous savez, de cette race de chiens japonais qui connaissent un engouement assez fort, on va dire, sur toute la planète. Mais surtout, je pense qu'elle a quand même bénéficié du soutien, à l'époque, assez important d'un certain Elon Musk, vous savez, le patron de Tesla, qui en avait fait, on va dire, une de ses cryptos préférées. Alors, à ses 55 millions d'abonnés sur Twitter, il avait vanté, on va dire, les mérites de cette nouvelle crypto qu'il trouvait en fait marrante. Il a commencé, on va dire, à faire le marketing et la vente, entre guillemets, de cette crypto depuis à peu près un an.
Elon Musk aboie, la caravane du Dogecoin passe. Elon Musk, baptisé par certains le Doge Phaser. Le Shiba Inu est réputé pour être vif et très intelligent, petit mais bien proportionné. Il est doté d'une forte personnalité et c'est un aboyeur né. Certains pourraient y voir un caractère proche de celui du milliardaire sud-africain, car c'est vrai qu'Elon Musk a beaucoup fait pour sa popularité. Il avait dans un tweet promis d'envoyer le Dogecoin sur la Lune, Nessim.
Alors ça, c'était une sorte de défi qui était parti, je crois, des utilisateurs de TikTok qui se disaient « On croit tous au Dogecoin, on est une communauté très importante, on va essayer de faire en sorte d'envoyer le fameux Dogecoin sur la Lune. » Alors la Lune, c'était le niveau un petit peu psychologique et emblématique du dollar. Donc vous savez que le Dogecoin avait, franchement, au début, commencé, c'était même pas des dixièmes ou des centièmes de cents. Donc, c'était vraiment très, très bas. Donc, la communauté, je crois que le défi est parti il y a à peu près un peu plus d'un an. Et je pense que Elon Musk a dû trouver ça, en fait, peut-être amusant. Il devait peut-être que lui-même, d'ailleurs, à une race du chien comme celui qui est l'emblème de la crypto. Enfin, c'est assez curieux.
La flambée du Dogecoin, la crypto du peuple, selon Musk, a fait des heureux. Il se raconte qu'un responsable de Goldman Sachs à Londres est devenu millionnaire pour avoir investi son argent dans le Dogecoin, ce qui lui aurait permis de prendre sa retraite, en espérant qu'il a engrangé sa plus-value avant, car la bulle s'est dégonflée après les propos d'Elon Musk lors d'un sketch à la télévision américaine, le Saturday Night Live, une émission humoristique.
Okay, but what is Dogecoin?
I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money.
Oh, so it's a hustle.
Yeah, it's a hustle.
Dans ce sketch, il campe un expert financier vantant les mérites des crypto-monnaies et particulièrement le Doge. C'est l'avenir de la monnaie, c'est un véhicule financier imparable qui va conquérir le monde. Un des participants au sketch lui demande alors « Donc, c'est une arnaque ?» Ce à quoi le milliardaire a répondu « Ouais, c'est une arnaque !» avant de rigoler. Nessim, c'est une gaffe ?
Pas particulièrement. Je pense que le problème d'Elon Musk, c'est que beaucoup disent que c'est effectivement, et ça on peut difficilement contester, un entrepreneur assez exceptionnel, très iconoclaste, qui aime vraiment prendre des risques, mais qui ne mesure sans doute pas la portée de ses propos. De tels propos sur des sociétés ou des actifs cotés ou régulés auraient eu des conséquences absolument impressionnantes en termes juridiques. Les propos d'Elon Musk pourraient être associés à des tentatives de manipulation financière. Mais vous savez que les cryptos, ça reste quand même, en tout cas dans leur variation de tous les jours, dans leur cours et dans leur volatilité, des devises qui sont bien moins régulées, on va dire, que les actifs traditionnels. Je pense qu'il a sans doute une certaine satisfaction de voir qu'il a un impact assez important sur ce marché. Et je pense que ça, en un sens, ça l'amuse de créer, on va dire, un petit peu ces montagnes russes sur les cryptos. À mon avis, il est d'ailleurs pas du tout impossible que, compte tenu des moyens de Tesla, compte tenu, on va dire, de l'équipe de chercheurs et de toute la, on va dire, la matière grise dont il dispose, qu'un jour, Elon Musk lance sa propre crypto, qui serait par exemple utilisée exclusivement ou peut-être d'ailleurs ouvert à d'autres, comme monnaie d'échange par exemple pour acheter les produits Tesla ou même ses satellites. Peut-être d'ailleurs qu'il y pense ou peut-être d'ailleurs que ce sera un projet qui verra le jour cette année.
En tout cas, l'épisode du Dogecoin lui a valu la détestation de certains tweetos qui sur le site lui reprochent d'avoir joué d'une certaine façon avec leur argent. Beaucoup disent « on a perdu beaucoup de fric, c'est de ta faute, qu'est-ce que t'as fait ?» Ce qui est dingue dans l'histoire, Nessim, c'est que depuis le début, les créateurs du Dogecoin, vous le disiez, revendiquent l'aspect farce de leur crypto. C'est le bouffon du roi Bitcoin.
Ils ont été, je pense, un petit peu dépassés par le succès de cette crypto. Et d'après leur déclaration, à mon avis, ils n'en ont pas conservé beaucoup. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils seraient beaucoup plus heureux s'ils les avaient conservés et sans doute avec des fortunes absolument impressionnantes à la clé. Vous savez que sur les marchés, en règle générale, plus un actif est de petite taille et peu liquide, plus justement les engouements spéculatifs peuvent le faire monter. Quand vous avez une crypto comme le Bitcoin, qui est la première monnaie mondiale, c'est bien plus difficile de la faire grimper de 10%, de 20% en quelques minutes ou quelques secondes par des déclarations. Le Dogecoin étant une petite monnaie de valeur très faible, donc très populaire parmi les particuliers, il est très facile de la faire monter. Mais il est vrai que les créateurs originels de cette crypto ont été assez abasourdis par ce succès que personne n'avait vu venir, finalement.
Oui, certains soulignent notamment la dimension libertaire du Dogecoin, le côté anti-Bitcoin aussi, ou contestataire. Je disais toujours avec cette image du chien goguenard, ça aussi, ça a pu participer à son succès.
Oui, en fait, je pense que le succès du Dogecoin est surtout une sorte de succès marketing, d'avoir trouver cette mascotte. Et puis, je pense que c'est aussi un des signes de l'importance, on va dire, de la montée en puissance des réseaux sociaux sur les marchés. Depuis le début de la crise du Covid, beaucoup de personnes se sont mis à la spéculation sur les marchés, bon, dans l'espoir, on va dire, d'y faire fortune, ou peut-être aussi, tout simplement, pour passer le temps. Et on a vu, vous savez, dans la fameuse affaire GameStop, qui avait vu des boursicoteurs de Wall Street faire grimper au ciel cette société, ce qui avait créé une sorte de chaos sur les marchés. Il y a une sorte, on va dire, de prise de pouvoir des réseaux sociaux sur la finance. Et je pense que le Dogecoin a vraiment surfé et profité à plein de ce phénomène qui voit, on va dire, à côté des professionnels, on va dire, bien établis de Wall Street ou des places financières, toute une série de nouveaux investisseurs, spéculateurs, qui gagne, on va dire, une forme de pouvoir d'influence sur certains actifs, certaines actions et certaines cryptos.
Oui, ils ont sans doute participé à la flambée des crypto-monnaies depuis le début de l'année jusqu'à ce mercredi noir. Alors, je voudrais qu'on y revienne, Nessim, hein, sur ce crack des crypto-monnaies. Hein, vous en avez-vous parlé abondamment dans les échos et sur le site Internet. On sait, les histoires d'amour finissent mal. On a vu l'amour qu'Elon Musk avait pour les crypto-monnaies, pas seulement le Dogecoin d'ailleurs, il a été un soutien très fort pour le Bitcoin. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé ce mercredi, parce que c'est en fait avant mercredi, il y avait eu déjà un petit coup de semonce venu notamment d'Elon Musk. Qu'est-ce qui s'était passé, Nessim?
C'est un revirement qui a un petit peu étonné le monde des cryptos. Le fondateur de Tesla avait laissé entendre qu'il allait permettre justement au Bitcoin de devenir en fait une monnaie pour les achats de véhicules de son groupe. Et puis tout d'un coup, mercredi dernier, donc il y a à peu près une semaine, il s'est rendu compte que le Bitcoin était polluant. Vous savez, pour faire fonctionner le réseau de transactions du Bitcoin, il y a une consommation d'électricité qui est assez importante, avec des machines. Bon, cette dimension, on va dire, polluante, entre guillemets, du réseau, elle existe depuis très longtemps, elle est très connue. Elle est aussi l'objet de contestations. C'est un des reproches qui exaspère le plus la communauté des cryptos, qui met en avant que finalement, la validation, on va dire, des transactions utilise aussi des énergies renouvelables. Donc en fait, que cette consommation est finalement pas si importante comparée, par exemple, à ce que consomment les banques aussi, ou les autres systèmes de paiement. Donc bref, c'est un argument qui est assez ancien et qui a été sorti donc un petit peu par Elon Musk de son chapeau. Et ce qui a créé, on va dire, un peu déjà une première fébrilité dans le marché. Je pense que ça a été déjà le premier point, on va dire, négatif pour le marché. Alors, il faut quand même aussi garder à l'esprit que depuis à peu près mars 2020, le marché des cryptos connaît une sorte d'envolée spéculative extrêmement forte, qui touche d'ailleurs à peu près toutes les cryptos, et qui est comparable, vous savez, au grand marché haussier qu'a connu le Bitcoin et les cryptos en 2017. Donc on va dire, on était sur un niveau de valorisation qui était quand même très fort. D'ailleurs, une sorte d'excès spéculatif qui est aussi comparable à ce qu'on a vu sur les marchés, vous savez, des grandes valeurs technologiques américaines, les fameux GAFAMA. Donc on va dire que les marchés d'actifs risqués étaient déjà à des niveaux de valorisation très importants. Et évidemment, les cryptos constituent des actifs risqués extrêmement volatiles. Et le dernier déclencheur a été la décision de la Chine d'affirmer vouloir fermer définitivement tout son système financier à toutes les cryptos. Ça a été la décision qui a été prise mardi, et qui a provoqué donc cette chute. Alors, il faut quand même garder à l'esprit que ce soit sur les cryptos ou sur les autres marchés, les cracks restent quand même des phénomènes assez mystérieux dans l'enchaînement, on va dire, des baisses. Tous ces éléments, à savoir valorisation élevée, le revirement d'Elon Musk et le fait que Pékin, objectivement, qui est notoirement hostile aux cryptos et aux bitcoins, tous ces éléments étaient en fait connus de longue date, mais ils ont à ce moment-là, je ne sais pas, provoqué une forme de mouvement de panique.
Oui, il y a effectivement, avec des, là aussi, sur des marchés qui peuvent être parfois assez étroits, alors moins peut-être pour le Bitcoin que pour d'autres crypto-monnaies, effectivement, la vague de vendeurs peut provoquer des fortes baisses. Il y a eu aussi une remontée assez rapide. Enfin, ça a été une journée assez tendue hein, sur le marché des crypto-monnaies. On l'a vu, vous avez évoqué le rôle de la Chine qui est sans doute très important. Le rôle d'Elon Musk aussi, hein, son revirement qui a pu surprendre de nombreux investisseurs. J'ai vu qu'il y avait même une crypto anti-Elon Musk qui est sortie au nom évocateur, je crois, Fuck Elon. Ouais, je suis désolé, hein, Elon va au diable en français, qui aurait bondi d'ailleurs quelques jours avant le crack. Je n'ai pas regardé ce que ça donnait depuis. Mais les déclarations d'Elon Musk, le rôle qu'il joue dans la hausse comme dans la baisse brutale de ces actifs spéculatifs, ça pose quand même la question de la crédibilité de ces produits en tant qu'actifs, Nessim ?
C'est pas impossible, mais en fait, Elon Musk aussi comble une forme de vide. Entre guillemets, il y a assez peu de vrais gourous sur le marché des cryptos, on va dire, parce que vous savez, les banques commencent à s'y intéresser, il n'y a pas d'analystes, on va dire, un peu phares. Donc finalement, les cryptos sont un petit peu sous l'influence, vous savez, un petit peu comme les influenceurs de la télé-réalité. Il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont sans doute peut-être pas une compétence extraordinaire sur ces questions-là. Donc on va dire, c'est des marchés qui fonctionnent beaucoup sous forme de slogans, sous forme d'engouement spéculatif, sous forme de mouvements moutonniers. Donc Elon Musk, finalement, compte tenu de sa notoriété, a un petit peu comblé ce vide et a été un petit peu le gourou autoproclamé des cryptos pendant quelques temps. C'est bien plus difficile maintenant, compte tenu, on va dire, de son changement de statut. Mais c'est vrai que ça pose problème pour ce marché-là. Et c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on observe sur les marchés, on va dire, traditionnels comme les actions. Mais vous savez, il y a quelques temps, tout le monde avait rigolé. Vous aviez la star de la télé-réalité, Nabila, qui avait conseillé d'acheter du Bitcoin. Alors, elle avait été un petit peu rappelée à l'ordre par le régulateur des marchés français. Mais en un sens, qu'est-ce que fait Elon Musk de différent ? C'est pas véritablement différent. Et lui, il n'a pas véritablement été, en tout cas à ses débuts, rappelé à l'ordre. Tout ça parce que, voilà, on estime que c'est un entrepreneur. Mais fondamentalement, qui nous dit que quand il soufflait le chaud ou le froid sur les cryptos, est-ce qu'il n'en achetait pas lui-même de manière personnelle, dans la foulée ou avant, c'est assez difficile. Hein. Et pourtant, je pense qu'il y a peu de chances que quelqu'un lui entame un procès pour manipulation de course sur les cryptos.
Les chéris, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, genre cette sorte de nouvelle monnaie virtuelle. Et en fait, je connais l'une des filles qui travaille avec un trader qui sont à fond dans le Bitcoin. C'est un peu la nouvelle monnaie, genre la monnaie du futur. Et donc, en fait, je trouve que c'est assez bien.
Nessim, vous saviez à combien était le Bitcoin quand Nabila a conseillé d'en acheter ?
Non, mais à mon avis, ça devait être... Je me demande si ce n'était pas pendant la crise de 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Peut-être il devait être, à mon avis, sous les 10 000 dollars.
Vérification faite. Lorsque Nabila recommandait le Bitcoin, le 10 janvier 2018, le cours de la crypto était à 14 000 dollars. Jeudi matin, malgré sa chute de mercredi, il valait encore autour de 40 000 dollars. Comme disait Nessim en raccrochant, « T'es un boursier, t'as pas de bitcoin ? Non mais allô quoi ?»
I am shitcoin.
Oh, holy shit!
The newest currency and soon heir to the throne of money.
Okay, why do I need to know about you?
Do you see my robe?
Yes.
Don't you want to get rich?
Ce mercredi noir risque de rester dans les souvenirs des investisseurs et notamment de ceux qui viennent de se lancer tout récemment sur ce marché des devises virtuelles, un marché considéré comme très volatile. Certains viennent peut-être de comprendre à leurs dépens ce que ce mot veut dire. J'ai reçu il y a quelques semaines une note du collectif de jeunes économistes BSI Economics. Elle est signée Alonita Yatier. Je l'ai appelée au téléphone. Bonjour Alonita Yatier.
Bonjour Monsieur Fay.
Vous êtes doctorante à l'Université de Bordeaux, attachée d'enseignement et de recherche. Vous vous intéressez en particulier à la blockchain et aux applications que sont les crypto-actifs. Dans une note pour BSI Economics, vous vous penchiez sur les raisons de la flambée des crypto-monnaies, hein, cet environnement macroéconomique et socio-économique favorable. On en avait parlé déjà dans un podcast de la story. Est-ce que vous avez été surprise d'abord par la chute des cours de mercredi ?
Je n'ai pas été très étonnée par cette chute de prix. Je pense que tout l'écosystème s'y attendait, mais on ne connaissait pas encore les facteurs à la base de cette future chute de prix. On ne pensait pas que le retrait d'une entreprise aussi importante que Tesla aurait causé cette chute de prix. On s'attendait beaucoup plus à une chute de prix consécutive à un durcissement au niveau de la fiscalité aux États-Unis, par exemple, ou à un durcissement de la réglementation sur les cryptoactifs.
Il y a eu des pertes de valeur très importantes pour un certain nombre de cryptoactifs. Est-ce que c'est de nature à détourner les investisseurs institutionnels qui s'intéressaient de plus en plus à ces actifs comme diversification pour leurs placements ?
Je ne pense pas que les investisseurs institutionnels se détourneraient des crypto-actifs. Je pense plus que ces investisseurs institutionnels vont profiter de cette baisse des prix pour investir davantage. Ce sont des investisseurs qui sont très avertis, qui sont professionnels et qui savaient à la base sur quel terrain ils s'engageaient. Ils ont donc pris des positions de long terme sur les crypto-actifs pour pouvoir proposer des portefeuilles très diversifiés aux clients. Donc non, je ne pense pas qu'ils seront découragés par cette chute de prix. Je pense que ça va plutôt favoriser un achat.
Dans votre étude, vous évoquez les manipulations de prix de crypto, notamment sur Twitter ou sur des forums de discussion, sur Telegram ou Discord, notamment sur les actifs les moins liquides, qu'il est plus facile de faire bouger. Je parlais tout à l'heure avec Nessim du poids d'un acteur comme Elon Musk sur le marché, un acteur assez imprévisible. C'est un problème de jeunesse ou de crédibilité ?
Je pense que c'est un mélange des deux. Le marché des crypto-actifs est assez jeune et en plein développement. De par leur émission, leur valeur dépend donc bien évidemment des coûts de production, mais également de la confiance du public. Et cette confiance n'est pas encore complètement établie, d'où des mouvements de panique suite à des annonces comme celle de M. Elon Musk. Je pense que le public s'attendait, donc avec l'acceptation du Bitcoin par Tesla, à un établissement du Bitcoin comme monnaie, donc comme toutes les autres monnaies traditionnelles. Donc, ce désir a été complètement trahi. Donc, les investisseurs les moins avertis se sont enfuis du marché. Donc voilà, je pense que c'est un mélange des deux. Le marché est assez jeune, la confiance n'est pas encore complètement établie.
Un dernier mot, je voudrais finir sur une crypto-monnaie un peu particulière, c'est le Dogecoin dont on a parlé abondamment. La flambée qui a eu lieu depuis un an autour de cette devise est absolument incroyable. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Je pense que le Dogecoin, qui a été un défi pour les crypto-monnaies, on va dire traditionnelles, telles que Bitcoin et Ether, voulait montrer donc par sa communauté qu'il était capable d'avoir ces fluctuations de prix aussi importantes. Mais le Dogecoin, contrairement au Bitcoin, n'a pas une assise aussi importante. Pour le moment, le Dogecoin est assez contrôlé par des investisseurs qu'on peut appeler des baleines, qui peuvent faire fluctuer le prix assez fortement. Donc, si on compare le Bitcoin et le Dogecoin n'a pas la crédibilité du Bitcoin, d'où ces fortes fluctuations de prix suite à des annonces sur Twitter ou d'autres plateformes d'échange.
Merci à Lonita Yatier de BSI Economics et merci Nessima Ait Kassimi pour cet éclairage sur la folie Dogecoin et sur la correction subie par le secteur. Vous pouvez retrouver les analyses et décryptages de Nessim dans les pages des Échos et sur le site leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Coingan, chargé de production et d'édition, Michel Dodge-Varnet.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.